lundi, mardi, mercredi, elle vous donne rendez-vous à l'Opus Café dans le 10e, quai de Valmy. À 21h, soyez précis, soyez courtois. Elle, c'est Roxane Butterfly pour un très beau spectacle. Djellaba Groove. Merci d'avoir attendu, Roxane.
De rien, le plaisir est pour moi. C'est un honneur de pouvoir présenter mon travail en France, en tant que Française.
Oui.
Et c'est la première fois que je vais présenter un travail en plus de 10 ans, sous mon nom, c'est-à-dire pas en tant qu'invitée dans le spectacle de quelqu'un d'autre. Donc je suis très heureuse de pouvoir faire ça à Paris, grâce à l'Opus Café.
Bah, ça nous fait plaisir aussi, pensez bien, puis l'honneur il est partagé, croyez-le aussi. Oui, il y a quelques années, on avait pu vous croiser d'ailleurs dans un spectacle de Bartaba.
En fait, c'était un spectacle qui s'appelait Terre, Danse, Percussion,
ouais.
Dont la direction musicale avait été donnée à Jean-Pierre Drouet, donc le percussionniste qui travaillait avec Bartabas. Le spectacle était une collaboration entre différents artistes qui avaient tous un rapport percussif dans leur danse à la terre. Donc il y avait de la danse katak, il y avait une artiste de bolas argentine, il y avait également des danseurs contemporains qui utilisaient toutes sortes de percussions à base de matériaux récupérés, etc. Et moi, au milieu de tout ça, je dansais mon tap dance avec un Prabhu Edouard, qui est un joueur de tabla assez fantastique. Ça a été la première fois d'ailleurs que j'ai commencé à faire de la fusion, puisque je viens de l'univers du jazz.
Oui, oui.
Et lors de cette expérience, j'ai donc commencé à fusionner avec des danseurs de flamenco qui venaient de Séville, et également la percussion indienne. Et Djellaba Groove, quelque part, est une extension.
Voilà.
Je suis tout à fait quelqu'un de la fusion, vivant à New York depuis tellement d'années. Donc on est catapulté dans notre quotidien, dans des réalités artistique et musicale différente, et aujourd'hui je culmine vraiment dans ce spectacle par rapport à ce que j'ai toujours porté en moi, de ce que j'ai toujours voulu faire en étant quelqu'un qui vit quelque part dans un exil artistique, puisque je suis française, je viens du sud de la France, de Toulon, et que l'apprentissage du tap dance m'a évidemment emmené bien loin de mes racines, puisque c'est un art qui est américain, qui se pratique principalement du moins à son origine dans la communauté noire américaine, qui est toujours très représentée par des hommes. Il y a beaucoup plus de femmes qui en font aujourd'hui. Donc c'est un exil qui m'a quand même pris 17 ans de mon existence. Et revenir en France aujourd'hui, c'est très intéressant en fait, parce que je suis quelqu'un qui a vécu pendant toutes ces années dans le melting pot de New York.
On va en parler tout à l'heure, mais vous avez fait des rencontres inouïes, quoi.
Ah oui, non, mais ça, que comme New York peut le permettre d'en faire. Hein.
Oui.
Et revenir vers la France, c'est quelque part, pour moi, revenir vers mes origines méditerranéennes, puisque j'ai grandi dans la basse ville toulonnaise, qui est un quartier d'immigrés, principalement maghrébins, africains et également vietnamiens, à côté du port, c'est-à-dire beaucoup de marines américaines également.
Oui.
Et j'avais envie de parler de ce quartier, des traces, des atmosphères, de ce que j'observais en tant qu'enfant sans forcément comprendre. Il y avait quand même un certain clivage culturel qui était là, des musiques qui me sont restées en mémoire, dont la voix de la chanteuse Oum Kalsoum que j'entendais au quotidien, et qui, je me rends compte aujourd'hui, ont vraiment influencé ma façon de voir les choses, ma façon de vivre et ma musicalité.
Et Djellaba Groove, on n'a encore rien vu, bien sûr, on ne va pas tout dire non plus ce soir, Roxane Butterfly, mais c'est ça, c'est ce que vous êtes en train d'exprimer, très bien d'ailleurs, célébration, monsieur, j'essaie de dire, voilà, du multiculturalisme.
Exactement.
Voilà, espèce de porte ouverte à toutes les influences.
Exactement, parce que je pense que de quelque côté de l'Atlantique on se trouve, on vit dans un système qui, quelque part, nous incite à devoir choisir une identité sociale. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très, très difficile à faire. Alors, il se trouve que je suis née française, avec tous les avantages que cela comporte. Et néanmoins, quand on me demande d'où je viens, ou pas d'où je viens, mais qui je suis, je suis autant américaine que française. D'ailleurs, je fais la demande de nationalité cette année. C'est quelque chose qui veut vraiment dire... C'est très profond pour moi de devenir citoyenne américaine, tout en gardant ma nationalité française. Parce que c'est un pays qui m'a permis de devenir l'artiste que je suis. J'y ai rencontré mon mentor Jimmy Slide, qui m'a donné mon nom de scène, que je porte, que j'officialise cette année, parce qu'aux États-Unis on peut même changer de nom, tout en gardant
c'est
le
sien. C'est joli, Roxane Butterfly, d'ailleurs.
Et oui, ça aide, je crois, les gens à se rappeler du nom de l'artiste qu'ils voient, tout en... tout en associant une certaine énergie, une certaine légèreté, comme ça. Et c'est donc mon mentor, Jimmy Fled, un tap danseur légendaire pour ceux qui s'y connaissent dans ce domaine-là, et qui donc m'a donné ce nom mes premières années aux États-Unis quand j'avais à peine 20 ans.
Ouais. On va reparler de toute façon de votre parcours dans les prochaines minutes. Il y a beaucoup à dire. On dit de vous, alors vous êtes modeste, vous n'êtes peut-être pas forcément développé, mais que vous avez réellement dépoussiéré finalement le tap dance, pour ceux qui nous rejoindraient, qui prendraient cette histoire en marche. C'est quoi, c'est les claquettes?
Oui, alors...
Vous avez dépoussiéré le genre?
Alors, enfin, je ne suis pas la seule. Disons que je suis quelqu'un qui adore écrire. J'ai toujours beaucoup écrit et j'ai toujours utilisé ma plume,
oui,
notamment dans les périodes où il n'y avait pas beaucoup de travail. Et ces périodes-là étaient en partie liées à cette espèce d'obscurantisme et de marginalisation extrême dont souffre ce milieu, autant aux États-Unis qu'ici, et bien sûr encore plus ici en France, parce que ça ne fait pas partie directement de notre héritage culturel. Et donc, j'ai, dans les années 90, avec un collègue guyanais, également français, Tamango, qui a lui-même une compagnie qui s'appelle Urban Tap, nous avions commencé à écrire une petite fanzine qui s'appelait Urban Tap et qui a été rebaptisée plus tard Tapping Time Newsletter. Et suite à ces articles, je me suis découvert une passion pour écrire. J'ai du coup publié dans The Nation, j'ai publié dans Jazz Hot, plus récemment j'ai publié dans le magazine Danser, et donc j'ai développé une espèce d'aisance comme ça à donner des conférences et des séminaires, à m'exprimer sur ce sujet, et en université, dans les collèges, et ce qui fait que quelque part il y a une espèce de j'ai développé une capacité à exprimer clairement quels sont les problèmes en fait dont souffre quelque part ce milieu au niveau de sa reconnaissance médiatique, et également du manque d'informations dont beaucoup de structures éducatives ou éducatrices, je ne sais pas comment dire en français, souffrent pour enseigner de façon correcte à leurs élèves. Il y a un gros manque de gens qui enseignent qui ont soutien institutionnel également pour enseigner à des jeunes danseurs qui pourraient être interprètes, chorégraphes, et pas seulement condamnés à devenir professeurs de claquettes. Et le mot claquette en lui-même est un mot que je
n'ai pas.
Ça n'est pas vraiment approprié. Alors il y a toujours beaucoup de polémiques, ce qui est très compréhensible autour de ce mot, parce qu'il y a une réalité économique. Si on dit qu'on fait des claquettes en France, tout le monde pense savoir ce que c'est, alors que mes claquettes à moi ne sont pas vraiment du Fred Astaire, ce qui correspond à l'imagerie populaire générale. Le mot claquette est pour moi un son qui fait claque, alors que mon son ne fait pas claque, mon son fait tap. Et je pars du principe que déjà on a des taps, ça s'appelle des taps, ce que l'on a sous les pieds, et je pars du principe que si la France, le langage, le vocabulaire a été capable d'absorber des mots comme breakdance, hip-hop et jazz, on dit pas la danse qui casse, on dit pas sauter en haut, sauter en bas. Donc, pourquoi cette résistance au mot tap, qui en fait n'est rien d'autre que le mot américain, et qui a été déformé par une espèce d'appropriation de la France à une certaine époque des comédies musicales, quand les danseurs portaient des fers doubles qui faisaient donc ce claque, à une époque où il n'y avait pas d'amplification musicale, et donc il fallait créer une séquence, une fréquence plus aiguë qui voyage dans une audience, de sorte à ce que le public puisse entendre clairement les frappes.
Aujourd'hui, nous sommes amplifiés. Mais on l'apprend plein de choses, et bien fait de venir. Donc, Samara, pourquoi le tap dance? Comment vous êtes tombé là-dedans, vous?
Oh, parce que j'ai toujours recherché à faire ce que les autres ne faisaient pas. D'accord. Pour me faire remarquer.
Ça vous va bien, c'est singulière.
Non, en fait, j'ai grandi dans le sud de la France, et c'est une histoire que j'aime. On me la demande toujours, et j'ai toujours autant de plaisir à la répéter, parce que c'est un. Bon, je suis toulonnaise, et dans le sud de la France, à l'époque, à Toulon, notamment à Château-Vallon, on avait un festival de jazz assez magnifique. Et à l'occasion de ce festival, une année, quand j'étais très jeune, je devais avoir 8 ou 9 ans, deux danseurs de tap dance sont venus, Bunny Briggs, la première année, et Jimmy Slide, qui allait devenir, des années plus tard, mon mentor et mon guide spirituel sont venus donner un spectacle. Et c'était fascinant, parce que tout d'un coup, c'était de la musique qui devenait réelle, qui se dans le corps d'un être humain. Et c'était quelque chose d'absolument... Pour moi, ça m'est apparu comme un art majeur, parce que c'était de la musique et de la danse en même temps. Et donc, ça touchait à l'infini, quelque part.
On peut écouter, là, maintenant, votre
tap fait.
À vous, justement. Roxana Butterfly, vous irez applaudir en début de semaine prochaine, lundi, mardi et mercredi, à l'Opus Café, quai de Valmy. Allons-y. Moi, je suis bluffé, là. Mais vraiment, mais comment vous faites ça?
Oh, ben là, j'ai fait comme j'ai pu, parce qu'en fait, pour les autres...
Ah oui, dans les conditions, un peu, ouais, c'est un peu rock'n'roll,
quand même. Petit bout de bois, sur lequel il fallait rester à flot. Et mais c'est merveilleux, hein, de trouver des bouts de bois comme ça quand on arrive dans une radio.
J'adore ça. C'est, alors, ça fait combien de temps que vous faites ça, vous voyez?
Eh ben, du coup, j'ai commencé exactement en 1979. Donc, ça fait un petit paquet d'années.
Et alors, dites donc, quel parcours, avant de revenir à votre spectacle. Grégory Hines, vous l'avez rencontré, lui aussi?
Bien sûr, je l'ai rencontré la toute première année.
Génial.
Où je suis arrivée aux États-Unis. J'ai travaillé avec lui, d'ailleurs, pendant 4 mois. Ouais. À une époque où je travaillais avec une compagnie qui était basée sur la Californie, qui s'appelle le Jazz Tap Ensemble, et pour laquelle il avait été engagé comme chorégraphe pour monter une chorégraphie pour la compagnie.
Vous avez travaillé aussi avec Bobby McFerrin, Elisabeth Contomanou, qu'on connaît bien, le batteur Aldo Romano, les contrebassistes Ron Carter et Bert Phillips. C'est ça, tous azimuts finalement, vous ne vous refusez aucune rencontre, quoi. Pourquoi d'ailleurs, le feriez-vous?
Parce que c'est ce qui m'a intéressé dans le tap dance. Maintenant, je m'en rends compte plus, parce que au début, quand on fait, j'étais enfant, hein, c'est un langage qui correspondait à une très grande liberté. Il y avait énormément de possibles, et j'ai eu l'occasion de faire des rencontres inouïes, parce que en fait, déjà à New York est la porte ouverte à toutes sortes de rencontres en permanence, et que pour apprendre, je n'ai pas vraiment passé beaucoup de temps dans les studios de danse. J'allais surtout dans les clubs où la bonne musique se jouait, dans les jam sessions, et donc évidemment, les musiciens, après leur concert à New York, vont dans les clubs, et évidemment, ils voient une Française qui fait du tap dance. Il n'y en a pas 36, il n'y a pas beaucoup de tap danseurs, du moins de ma génération. Ouais, ouais. Quand j'ai commencé, on était vraiment très peu, il y en a plus maintenant, ce qui est merveilleux. Et alors évidemment, on nous fait, c'est clair qu'un musicien qui connaît un peu l'histoire de la musique et du jazz va être curieux et va vouloir profiter de cette opportunité aussi. Et donc de cette façon-là, je me suis retrouvée à jouer pendant une semaine, par exemple, à la Jazz Alley avec Sally Jordan.
Ah oui.
Qui a été une expérience absolument incroyable.
On entend, pour dire aux auditeurs, la musique là, de votre spectacle, justement,
oui.
En fond.
Oui.
Hein, c'est très joli. Mariage, justement, entre rythme percussif et jazz, on a vraiment d'y être. Hein. Mais alors, dites donc, au début, à New York, pas facile. Il a fallu faire la manche.
Oula, oui.
Avant de vous retrouver à l'hôtel New York de Las Vegas.
Oui.
C'était New York tout court.
Et d'ailleurs, je me suis retrouvée à danser à Las Vegas, au New York Hotel.
Oui.
Parce que je dansais dans la rue et que pour ce spectacle particulier qui s'appelait Manhattan, j'ai été recrutée en dansant dans la rue. La directrice de casting cherchait des artistes qui venaient vraiment de cet environnement, parce que le spectacle parlait des danseurs de rue, des musiciens de rue, et ils ont vraiment joué la carte de l'authentique. Je me suis retrouvée 2 semaines avant que mon visa n'expire avec un méga contrat. C'était un rêve. Hein. Et à partir de là, tout s'est mis en place, parce que du coup, je suis rentrée dans le créneau, j'ai eu mes papiers, etc. Tout s'est mis en place assez facilement. Mais les années de rue, en fait, étaient absolument merveilleuses, parce que c'était vraiment la liberté. Et New York, à cette époque, était encore une ville où il était possible de vivre, de payer des loyers qui étaient vraiment pas chers. Moi, j'habitais dans Chelsea, qui est maintenant un quartier très huppé.
Ouais.
Et je payais $300 par mois mon loyer. Je gardais mes billets de 1 dollar que je planquais dans une chaussette, comme ça, et je me souviens très bien, tous les 30 du mois, retrouver à table ma roommate, et je lui comptais ces 300 billets en billets simples de 1 dollar pour payer mon loyer. Donc, c'était des années très dures, parce qu'on mangeait pas tous les jours.
Hein. Ouais.
On se réveillait la nuit, des fois on avait une belle petite crampe à l'estomac, mais en même temps, les gens de ma génération, on était très peu qui s'intéressaient à ce langage. On a eu le privilège immense d'arriver à New York à une époque où le groupe de danseurs qui s'appelait les Original Hoofers était toujours en vie et actif, et se retrouvait régulièrement dans un petit club pour partager leur art avec la jeune génération. Et on vivait vraiment pour ces moments-là. Le mercredi soir, on était tous dans l'attente de les retrouver et d'apprendre vraiment ce langage avec eux, dans un club de jazz, avec des musiciens live, et puis surtout de savoir quelle serait leur, leur interprétation, leur conseil, etc. de notre travail.
Roxane Butterfly, je me disais avant même que vous nous rejoigniez que ce serait forcément trop court ce soir. Un grand merci de cette générosité, justement.
Merci.
J'imagine que sur scène, pour vous avoir déjà vu, moi j'ai eu le DVD. Hein. Il faut vraiment, écoutez-nous, aller l'applaudir et la découvrir, cette artiste singulière, volubile et généreuse.
Merci.
Djellaba Groove, à l'affiche donc de l'Opus Café, lundi, mardi et mercredi à 21h précise. L'Opus Café, c'est toujours au 160 quai de Valmy dans le 10e. Revenez quand vous voulez, Roxane.
Merci. À très bientôt.
On est ravis de vous avoir reçu et de vous avoir rencontré. Julien Launay, l'infotrafic.